Donc, on est rendu au message de cette église. Quelle église aujourd'hui on va étudier? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Oui, Éphèse, Smyrne, Pergame, c'est ça. Donc, heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est trouvé écrit. C'est le temps, car le temps est proche. Là, il dit heureux ceux qui lisent. Ces paroles, ce qui lit et qui écoute. On avait dit qu'on envoyait cette lettre-là. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que c'est une lettre, c'est cette lettre aux églises? En réalité, l'Apocalypse, c'est une lettre, une grosse lettre, il est contenu des lettres. Mais c'est aussi un livre prophétique aussi. Donc il y a plusieurs genres littéraires dans ces livres-là, hein, mais c'est surtout adressé comme une lettre au début, pour les sept églises. Il dit Jean aux sept églises qui sont en Asie, il dit. Et que la grâce et la paix, vous voyez les salutations au style d'une lettre, soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de cet esprit qui sont devant le trône, de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né entre les morts et le souverain de toute la terre. Vous voyez, c'est lui qui est parmi les chandeliers, il se promène. Et c'est quoi les chandeliers? Dans Apocalypse, ce sont les églises, c'est ça? Puis on a vu qui était né dans les étoiles. C'est qui les étoiles? Question d'examen, là. C'était les anges, les responsables des églises, là. OK, donc il y a voit ça aux églises de l'Asie. Vous voyez l'Asie, là? OK, c'est là qu'il se trouve toutes ces sept églises. On fait rapidement un survol. Et je fus ravi en esprit, il dit au Seigneur, le jour du Seigneur, j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est pour ça qu'on est en train de lire, d'apprendre, de voir ces messages-là, et envoie-le aux sept églises. Et là, il dit, voilà, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la dernière, à l'Odyssée. Donc, on a vu, les sept églises ne sont pas choisies au hasard. Est-ce que vous voyez jusqu'au fond, là? Oui, hein? Vous voyez le trajet, les petites flèches, là? C'est pas choisi au hasard. Elles sont situées au long d'une route circulaire principale qui relie les centres, les villes les plus importantes à l'époque, là, OK, de l'Empire romain, là. Et c'est l'actuelle Turquie, comme on avait dit. Donc, le point de départ, c'est Éphèse. Mais même on pourrait dire, là, d'où écrit l'apôtre Jean? Il écrit de l'île de Patmos. Donc, on dirait que ça suit logiquement. Hein? Donc, Éphèse, puis là, on dit aussi que Jean connaissait ces églises-là de l'Asie. Okay? Il a travaillé plusieurs années dans ces églises-là. Et Éphèse était le port majeur là, pour l'entrée. Et si vous voyez, là, c'est vraiment un messager qui pourrait faire ce trajet-là. C'est pour ça que ces églises-là, dans le temps, ont été envoyées pour cette église-là. On a vu déjà le message à l'église d'Éphèse. On a déjà vu aussi Smyrne, la semaine passée, avec mon frère Célestin. Et vous voyez, on a sept, hein, on a choisi sept. Mais aujourd'hui, on va voir Pergame, chapitre 2, juste 2, 12 à 17. Vous voyez, ces sept lettres-là sont écrites dans les deux chapitres de l'Apocalypse. Vous voyez, Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 sont écrits dans ces deux chapitres-là. On va faire juste rapidement un survol de ce qu'on avait vu à l'église d'Éphèse. Donc, celui qui tient les sept étoiles, il marche au milieu des chandeliers. Il se présente comme ça à l'église d'Éphèse. Okay, puis après, on voit la louange. Il y a toujours un peu une logique dans ces lettres-là. Hein. Il y a une, des fois, il n'y en a pas, mais on va le voir peu à peu. Donc, il y a une louange à cette église. Son travail persévérant, c'est ça? Discernement. Il dit qu'il y avait des faux apôtres, il a discerné ces faux enseignements, l'église d'Éphèse. Là. Mais par contre, il y a une reproche. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qui a abandonné, c'est quoi? Ça fait référence à quoi, vous vous rappelez? Perdre le premier amour. La flamme, là, le vouloir, comme au début, quand on a commencé avec notre vie avec le Seigneur. Et donc, ils ont perdu leur premier amour, il dit, mais le Seigneur les exhorte encore à avoir cet amour, ce premier amour. Des fois, on a tombé juste en ce qui concerne l'enseignement, ou s'est concentré juste ça, mais ils ont perdu le premier, leur motivation. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils le faisaient? Donc, ils ont perdu cela, et le Seigneur Jésus leur dit, et c'est grave, parce qu'il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, et repens-toi, il dit. Ça, c'est l'exhortation et l'avertissement. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Bon, c'est quand même fort comme avertissement, comme conséquence. Ça ne veut pas dire, on avait dit que l'Église va disparaître. L'Église ne va jamais disparaître. Ça fait combien d'années déjà, depuis que l'Église est née à peu près, plus que 2000 ans. Donc, mais ça se peut qu'il y ait des églises qui ferment à cause des problèmes, à cause des péchés même, malheureusement. Donc, mais Dieu est fidèle toujours. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il y a toujours la notion de cet avertissement d'écouter, que celui qui a des oreilles, qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, je donnerai, il y a une promesse, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie qui va être dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Et je ne sais pas de quoi il va avoir l'air, là, mais il va avoir probablement un arbre de vie. Mais ça fait aussi, c'est comme un symbole de la vie éternelle que nous allons avoir avec le Seigneur. Donc, on a vu Smyrne, le premier et le dernier, il se présente comme cela la semaine passée. Le premier et le dernier, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la... Qui est lui? Qui c'est lui-là? C'est Jésus qui était mort, il est revenu à la vie. C'est Jésus qui se présente de cette façon. La tribulation, il parle de la louange. Ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche spirituellement. Il dit que tu as persévéré aussi. Il dit aussi, aucun reproche, il n'y a aucun reproche à adresser à tes églises, mais ne crains pas, il dit. Ok, t'as bien été, pendant t'as supporté la tribulation, mais il dit, il y a une exhortation, ne crains rien parce que ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a un avertissement aussi à cette église-là. Pardon, il y a une exhortation, puis il n'y a pas d'avertissement clair comme à Éphèse. Il dit, écoute encore, et il y a la promesse, la couronne des vies. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que c'est la seconde mort pour vous, d'après vous? Qu'est-ce que la seconde mort? On va mourir deux fois. C'est lui qui tient le pouvoir de la mort. C'est lui qui a vaincu la mort, même Jésus. Et il dit que il n'y aura pas une deuxième mort, c'est-à-dire la mort pour l'éternité. Ok, la mort, l'Apocalypse parle de cet enfer là où il y a tout le monde. La deuxième mort, la mort spirituelle. Donc on va mourir physiquement, c'est sûr. On va passer par tout le monde. Nous allons passer par cette mort physique. Mais la mort séparée des dieux pour l'éternité, pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, il n'y aura pas de lieu, cette deuxième mort. Donc c'est comme ça qu'il finit le message à l'église de Smyrne, la lettre à l'église de l'oracle, on peut dire aussi à l'église de Smyrne. Donc aujourd'hui, on va voir à l'église de Pergame. Puis on va le lire, vous avez votre Bible aussi, Apocalypse 2, 12 à 17. Okay? Apocalypse 2, 12 à 17. Mais vous pouvez le lire avec moi aussi à l'écran, si vous voulez, si vous l'avez dans votre Bible aussi. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce qu'ils disent. Là, il se présente d'autre façon. Voici celui qui dit, qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Wow. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mort chez vous, là où... Il répète encore, hein, là où demeure Satan. Il continue. Là, il y a quelque chose qui est contre cette église. Là, le Seigneur Jésus dit, mais j'ai contre toi certains griefs. On n'est pas, hein, quand Jésus va nommer cela, là, certains griefs, il dit. Et tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute et mangent les viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine de ce qu'on a nommé aussi dans l'église d'Éphèse de Nicolaïte. Repens-toi, encore l'avertissement, repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église de Pergame, il dit aux églises. C'est vrai hein, qu'il donne ce message-là à l'église de Pergame, il dit écoutez ce qu'il dit aux églises. Donc il est conscient de qu'il va avoir plusieurs églises qui vont lire même cette lettre au Pergame, aux gens de Pergame. Au vainqueur, qu'est-ce qu'il dit? Je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le... C'est beau, hein? C'est beau. Ce sont belles ces images-là. Hein? Donc, vous allez avoir un petit caillou. Qui aime les cailloux ici, là? Je sais que des fois, vous partez en voyage, vous allez dans un lac, là. Ça attire mon attention, mais je ne suis pas jusqu'à à ramasser des cailloux. Ah oui, je l'ai déjà fait avec ma femme. Mais j'étais obligé. Non, c'est pas vrai. Mais en tous les cas, c'est beau les cailloux, mais en tout cas, c'est symbolique. OK, on va le voir tantôt. Et vous allez recevoir un caillou blanc. Et en plus de ça, il dit, vous allez avoir votre nom gravé. Quel nom? Un nom nouveau. On ne sait pas. Est-ce que c'est littéral? Je ne sais pas. Ça porte à croire que c'est vraiment symbolique. Là. Mais c'est beau ce symbole-là. En tout cas, on va le voir. Mais avant d'aller, on va faire encore un voyage, OK, à l'église de Pergame. Vous voyez, c'est une simulation, hein, qu'on pense que l'église de Pergame était comme ça. Située environ, pas l'église de Pergame, mais la ville même de Pergame, était située à peu près 90 km au nord de Smyrne. Vous voyez, Éphèse, Smyrne, Pergame, un peu plus haut là, OK, à 90 km. C'est pas loin quand même, 90 km. Mais rappelez-vous hein, que les gens, des fois, ils faisaient ce voyage en quoi? À pied ou à cheval. Donc, ils prenaient quand même quelques jours, même, peut-être. Donc, à 90 km au nord de Smyrne, à 25 km, c'est un peu plus rentré dans la mer. Là, ce n'est plus un port, là, OK? C'est vraiment rentré dans la mer. À la mer, on a vu tantôt l'image. Et elle est construite sur une colline rocheuse de plus de 300 mètres. Donc, il y avait une belle vue, Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà Pergame, hein, ici, là. La ville, présentement, ça s'appelle Bergame. C'est en Turquie. Peut-être vous êtes allé là. Ça serait bon de connaître cette belle ville-là. Ville impressionnante, majestueuse, stratégique. Ce n'est plus maintenant une ville comme celle-là. OK? Ce n'est plus une ville comme dans l'ancien temps. Mais le nom Pergame, Pergamos en grec, Pergamum en latin, là, et possède une étymologie qui correspond parfaitement à la géographie de cette ville-là. Parce que c'est Pergame, ça veut dire une ville en hauteur, OK? Une forteresse, si on peut dire, OK? Hauteur, et citadelle, on peut dire, acropole, OK? Puis c'est beau. Si vous voyez 300 mètres, vous savez que le Mont-Royal, ça fait à peu près 300 mètres. Donc vous voyez une ville, là, à la hauteur du Mont-Royal, tout est comme ça, puis une grosse ville qui ressort. Ça doit être une belle vue. C'est là la ville de Pergame. Mais il y avait une bibliothèque dans le temps. Okay? Pergame était l'une des merveilles intellectuelles. Donc, les gens étaient très... les Grecs hein, sont connus pour être très instruits, si on peut dire. Il y a une grande bibliothèque. Il abritait environ 200 000. On a vu qu'à Éphèse, il y en avait une là, qui pouvait contenir 20 000 environ. 12 000, je crois, en tout cas. On dirait 15 000, OK? Rouleaux. Mais là, elle peut avoir 200 000 rouleaux. Donc, 200 000 rouleaux, c'est beaucoup. Et la ville de Pergame a donné son nom au parchemin, OK? Ce support révolutionnaire sous forme de rouleaux qui a transformé à jamais l'histoire de l'écriture, là. OK? Lorsque l'Égypte, vous savez, l'Égypte fabriquait quoi? Oui, le papyrus, c'est ça. Le papyrus, c'était quoi? C'est construit par des feuilles, là, à côté du Nil, là, en Égypte. Il y avait comme le monopole, là, dans le temps, OK? Puis, c'était très léger aussi. Et les anciens écrits sont écrits sur parchemin. Il y en a encore même des parchemins. Mais, Pergame a comme... exploiter cette technique-là. C'est écrit sur la peau d'animaux. OK, c'est très résistant, donc le parchemin. Mais à l'époque, c'était très cher. Donc, il y a quelques-uns qui pouvaient l'avoir, mais ça a donné ce nom-là. C'est pour ça qu'en espagnol même, je crois, c'est pergamino. Je ne sais pas comment on dit, là, j'ai oublié l'espagnol. Mais pergamino, c'est ça, pergamino? Pergamino, wow, c'est proche à Pergame. Hein? Donc, ça a donné ce nom-là. Et le papyrus a donné nom au ce qu'on connaît maintenant, le papier. Le papyrus. Le papier, mais c'est sûr que le procédé est différent. Donc, on voit que c'est une ville instruite. OK, c'est parchemin, ces parchemins, on les a maintenant, les anciens écrits de la Bible ont été aussi écrits en parchemin, des rouleaux qui se sont conservés pendant des siècles. L'acropole, la ville haute, fortifiée, comportant sanctuaires, abritant nombreux temples. On connaît, hein, on a déjà vu Éphèse, Smyrne, plusieurs temples, OK. Et un qui était très connu, c'était Athéna, et son sommet... Et à son sommet, il y a l'imposant temple de Zeus, le dieu, OK, un dieu du grec, là. Vous voyez en haut, là, c'est vraiment le temple de Zeus, là, qu'on voyait de loin, là. Donc, si on peut avoir peut-être une vue, à l'époque, c'était à peu près comme ça. Il y a même une réplique, là, je pense que c'est en Grande-Bretagne, de ce temple-là. C'est très beau, là. OK, Zeus, sauveur, sauté, il dit. Certains commentateurs assimile ce temple à ce qui est mentionné tantôt, le trône de Satan. Okay? Ils font peut-être référence à ce temple-là. Il y a des commentateurs qui pensent que quand Jean il parle du trône de Satan, il parle peut-être de ça. Il y a un sanctuaire aussi à Pergame. Il y en avait, en tous les cas, à Esculape ou à Sclépion. Des deux sont utilisés. C'est vraiment le centre de guérison antique, avec des serpents et tout. Et moi, je présente ça parce que ça a rapport avec ce que Jean il va dire dans cette lettre-là. Voyez, lui, là, il est beau, hein? C'est le culte à Esculape, ou le nom que ça m'échappe, c'est Asclépion, c'est les deux, c'est la même. OK? Attendez. Était le centre de culte, le symbole d'Esculape, était le serpent. Vous voyez le serpent dans sa main, là? Et qui figure, rappelle directement le serpent ancien, probablement, quand il parle le trône de Satan, là, aussi. Donc, c'est le dieu de la médecine, là. Beaucoup de gens allaient pour aller se faire soigner dans ce temple-là. Et c'était un centre officiel aussi, Pergame, impérial pour la province. C'est à Pergame qu'a été construit le premier temple à l'empereur, dans les années à peu près 29, de l'an 29 de notre ère, là. Donc, comme vous le savez, il y avait une obligation d'offrir l'encens et déclarer que César était le Seigneur. Wow, il y a quand même, des fois, il était obligé à déclarer ça. Regardez seulement dans quelle situation se trouvaient les chrétiens qui disaient que leur Seigneur était qui? Jésus, pas l'empereur. Donc, en étant la capitale de la province d'Asie, Pergame accueille le proconsul, okay, romain, investi de ce qu'on appelle en latin, le ius gladii, c'est-à-dire le droit de glaive, de l'épée, là. Donc, le droit de la vie et de la mort. On dit que Pergame, c'était une des premières villes qui acceptait la peine de mort, là. Il pouvait exercer la peine de mort. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça rapporte à ce que Jean est en train de dire à cette église-là. Qui est mort dans cette église, il le mentionne? Antipas. Oui, c'est ça. Donc, on a une vue, c'est ça, Pergame, c'est la ville moderne, OK? Vous voyez le théâtre au milieu, c'est beau, hein? Donc, il y a encore... Pergame, ce n'est pas la ville avant, la belle ville, et même très riche, et ce n'est plus, c'est une ville ordinaire en Turquie, mais c'est riche en ce qui concerne les fruits, c'est riche en histoire, dans l'archéologie. Okay, donc, c'est en résumé de ce qu'on va voir maintenant, le portrait de Christ maintenant, dans le verset 12. Vous avez, je perds votre Bible avec vous. Voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, Jésus se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à double tranchant. Qu'est-ce que ça symbolise, donc, cette épée à double tranchant? Qui tient l'épée, on a dit tantôt. Et on le voit à l'écran aussi. Ça symbolise quoi? L'autorité souveraine, c'est lui qui tient le pouvoir de la mort et de la vie. Son pouvoir de juger aussi, de donner la vie et la mort aussi. Et donc, à Pergame, on a dit que résidait le proconsul, le seul magistrat de la province que détenait, qui avait le droit d'autoriser la mort de quelqu'un. Donc, dans une ville où le pouvoir romain détenait ce droit, cette image rappelle que Christ possède une autorité bien supérieure à ces dieux-là qu'il y avait à Pergame. Et Jésus se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Imaginez quelqu'un avec une grosse épée aiguë à double tranche. On le voit plus tard hein, dans les symboles de l'Apocalypse. Là. Celui qui danse sur le chevalier. Et donc, c'est très symbolique ce que Jean écrit quand il introduit cette lettre-là. Les croyants sont donc appelés à choisir entre l'autorité du monde et celle de Jésus. Ils sont partagés, là, parce que d'un côté, des fois, ils sont obligés à se plier devant l'empereur, devant le culte à l'empereur. Donc la fidélité à Christ peut devenir coûteuse dans le temps, lorsque les autorités humaines s'opposent à Dieu. Donc ça a dû être des temps difficiles pour ces chrétiens à Pergame de pouvoir vivre dans cette société. Et là, on rendait en culte à l'empereur. Mais Jésus se présente comme celui qui a l'autorité suprême. Donc les chrétiens sont encouragés pour cela. Le trône de Satan, dans le verset 13, il dit, lorsque Jésus parle du trône de Satan, il désigne un lieu où l'influence du mal est particulièrement forte. Probablement le lien avec le culte impérial. On a dit tantôt peut-être avec le temple de Zeus, là, le dieu, mais probablement aussi fait référence, je crois que même fait beaucoup plus référence à ce culte impérial. Donc là où il est le trône de Satan. Ce contexte rappelle que derrière certaines puissances humaines peut se cacher une réalité spirituelle opposée à Dieu. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'a dit Jésus quand il a parlé aux gens? Il a dit que qui est le prince de ce monde? Satan. Est-ce qu'on croit que vraiment à Pergame c'était le trône de Satan? Pourquoi il dit ça? Je crois que c'est comme un symbole à cause de tous les dieux qui existaient. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des autres villes? Oui, je crois que oui. Mais dans ces cas-là, il choisit Pergame pour dire vraiment que c'était le trône de Satan. Mais en fait, Jésus même le dit que le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable qui influence l'Église. Je sais où tu demeures, lui. C'est rassurant. Hein? Dieu, c'est Jésus, sait où nous sommes. OK? Est-ce qu'on pourrait appeler symboliquement Montréal comme quoi, la ville de quoi? Je ne sais pas, il y a plusieurs qualificatifs qu'on pourrait donner. Okay? Mais rappelons-nous que Dieu sait où on demeure. Et Dieu sait à quoi l'Église fait face ici dans notre société. On pourrait en nommer plusieurs choses. L'Église, notre Église ici, l'Église à Montréal, je ne dis pas l'Église seulement de Rosemont, les chrétiens font face à cette ville-là. Okay? Donc, le Nouveau Testament décrit souvent le système du monde comme étant sous l'influence temporaire opposée à Dieu. Donc, peut-être quelqu'un qui pourrait lire 2 Corinthiens 4, 4, puis une autre personne, 1 Jean 5, 19. Qu'est-ce qu'il dit 2 Corinthiens 4, 4? Ça peut nous aider aussi pourquoi 2 Corinthiens 4, 4. Il dit que les incrédules, et quelqu'un a aveuglé la vue de ces incrédules, c'est qui? Et qui le dieu de ces siècles, Satan? C'est encore plus grand hein, ce qu'il dit, hein, le dieu de ces siècles, on dirait de ce monde-là. Et c'est Satan qui a aveuglé ces gens-là. Les 1 Jean 5, 19, ce qu'on pourrait dire, c'est encore plus clair ça, je crois. Hein. 1 Jean 5, 9, 5, 19, pardon. Oui, donc nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier. Quand Jean parle souvent du monde entier, c'est qui là, le monde pour Jean? C'est la société, c'est ça? C'est le système, si on peut dire. Oui, ça parle aussi du monde entier. Quand il dit quand Dieu a tant aimé le monde, c'est vraiment tous les gens, là. OK? Mais du monde entier est sous la puissance de qui? On pourrait dire de Satan, même, du diable. C'est ce que Jean était en train d'écrire à cette église à Pergame. C'est bon? Donc, verset 13 encore, fidélité des croyants, dans le verset 13. Malgré cet environnement hostile, les chrétiens de Pergame sont restés fermement attaché à quoi? Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 13? Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. C'est une bonne qualification de ces gens. Malgré toutes ces persécutions, là, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas régné mon nom. Ils ont refusé de régner leur foi, même lorsqu'ils étaient confrontés à la persécution. Ils ont choisi vraiment de ne pas régner leur foi. De quelle façon ici, dans notre société, on pourrait régner notre foi, là? Pose une question difficile. Quitter l'Église et au niveau de notre société, accepter ce que la société, notre société dit, la pensée du monde. Maintenant, on est confronté au travail. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui travaillait, puis on fait signer une feuille qui maintenant, il doit être comme appuyer le mouvement LGBTQ. Et puis, dans son contrat, il était marqué. Et ce frère-là, il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Donc, il a dû renoncer de son travail. On est rendu là maintenant. Donc, c'est un piège aussi. Mais il dit, vous retenez mon nom. Tu n'as pas régné ma foi. Même au jour difficile. Dieu merci, on n'a pas encore ce genre de situation ici. Peut-être oui. Je parle parce que je ne vais pas dans un travail séculier, moi. OK, je parlais l'autre jour, là. C'est vrai que on est ici toujours à l'église, OK? Mais c'est sûr, on visite des gens, on reçoit des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vous êtes plus dans vos milieux de travail. Des fois, vous êtes probablement persécuté même par les idéologies ou par des positions. Et ça vous met dans une situation des fois difficile. Et là, vous devez vous afficher comme chrétien. Qui est cet Antipas qui est nommé dans Jean, dans l'Apocalypse? On ne le voit pas ailleurs, là, dans le Nouveau Testament. Mais c'est qui, lui? C'est un témoin fidèle. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné. Et même aujourd'hui, au Antipas, mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous. Vous voyez, là, à Pergame, il a été mis à mort. Est-ce qu'il était de l'église de Pergame? Probablement, ou peut-être il venait d'une autre église, mais il a été mis à mort là parce que l'empereur était là, proconsul était là. Il avait le droit de donner la mort à ces gens-là. Il a été mis à mort. À cause de quoi? À cause de sa fidélité, de sa foi. Donc il est présenté comme un témoin fidèle parce qu'il est resté attaché à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Donc ce titre rapproche de celui de Jésus. Hein? Jésus est appelé aussi le témoin fidèle. Quel privilège de cet Antipas qui a été nommé de la même façon comme Jésus même se présente, il est nommé dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 1, 5, qu'est-ce qu'il dit? Justement, il dit, Jésus, mon témoin fidèle. Quel privilège, nous, comme chrétiens, d'être aussi appelés témoins fidèles. D'ailleurs, encore là, c'est dans sa grâce aussi. Hein? Nous sommes appelés frères, même de Jésus. Notre grand frère, c'est notre frère, lui. Et donc, ce Antipas a été mis à mort à cause de sa foi. Témoin en grec, là, c'est moi, je ne suis pas un expert en grec, là, mais le mot témoin, ça veut dire quoi? Qui connaît les Grecs un peu? Martyr, c'est ça. Merci, Daniel. Et martyr, c'est ce qui a donné le mot en français, martyr, quelqu'un qui meurt à cause de sa foi. Okay? Mais c'est ce mot qui est utilisé quand il dit le témoin fidèle, le martyr fidèle. Dans le temps, être un témoin, c'était quelqu'un qui allait même donner sa vie, mourir à cause de sa foi. Dans 2 Timothée 1, 8, il dit « N'aie donc point honte ». 2 Timothée 1, 8, il dit « Ne donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, et ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance. Souffre avec moi par l'Évangile. » C'est ce qui a fait ce témoin fidèle Antipas. Ah ben, ce que je viens de lire de Timothée 1, 18. Donc, il y a un reproche à cette église, versets 14 à 15. Malgré leur exil, mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Connaissez-vous l'histoire de Balaam et Balak? Un peu, vous vous rappelez? Oui. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de quoi? De chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant là à la débauche. Donc, Balaam, dans l'Ancien Testament, n'a pas pu... Qui se rappelle de cette histoire-là. Qu'est-ce qui a fait Balaam? Nicole, c'est elle qui a levé la main avant. Oui, il voulait que c'est ça. Il voulait que par la bouche de Balaam, le peuple de Dieu soit maudit. Quoi d'autre vous pouvez dire de Balaam? Question d'examen pour le dernier cours? Oui, pour le convaincre de maudire. C'est un peu plus long. Oui, si vous voulez exactement lire l'histoire, là, allez dans Nombre 24. C'est là. Chapitre 22 à 24. De Pierre fait référence aussi, même Jude fait référence à ce Balaam. Mais en gros, là, c'est ce que mon frère disait, là. Et c'est Balaam. Le peuple de Dieu devenait de plus en plus grand, là. Okay? C'est le roi de Balak qui voulait comme maudire le peuple. Okay? Puis il trouve un genre de prophète, là, un faux prophète, si on peut dire, là. Puis il veut que ce Balaam puisse maudire le peuple de Dieu. Mais il ne réussit pas. Vous rappelez l'histoire de l'âne, hein, qui parle, hein? L'ânesse, si on peut dire, l'ânesse qui parle. Qu'est-ce qu'il voit, cette ânesse-là? Quelqu'un se rappelle? Qu'est-ce qu'elle voit? Oui, un ange avec une épée, quoi? Nulle. Probablement d'un double tranchant. Et comment il se présente, Jésus? C'est drôle, hein, parce que c'est tout un rapport, hein, avec ce que Jésus est en train de dire à cette église-là. Et l'âne, il voit l'ange, mais Balaam, il ne le voit pas. Jusqu'à ce que Dieu ouvre ses yeux et c'est Balaam. Regarde, qu'est-ce qu'il fait, Balaam? Il se prosterne. Il dévance cet ange-là. Et c'est encore drôle, c'est Balaam, comment il meurt, vous vous rappelez? Au fil de l'épée, en plus. Au fil de l'épée. Un peu ce que Jésus dit à la fin. Il dit, repens-toi, sinon je viendrai avec eux. En tout cas, on va le voir tantôt. Mais c'est tout en rapport avec ce que Jésus est en train de dire, hein. Et ce Balaam a fait tomber le peuple de Dieu dans la débauche. Parce qu'il ne pouvait pas maudire plus tard, on le voit dans le livre de Nombre, qu'il a dit à Balaam comment faire tomber les fils d'Israël. Okay? Ils ont pris des femmes médianites, okay? Puis ils ont tombé dans la débauche, les Israélites. Et en plus de ça, juste pas dans la débauche, ils ont adoré aussi leurs idoles. C'est pour ça que... Et Jean mentionne là, ces idoles-là. Donc, il y a un reproche à cette église. De la même manière, certains à Pergame adoptaient une doctrine qui les conduisait à des pratiques contraires à la volonté de Dieu. L'idolâtrie et même l'immoralité sexuelle. On parle plus probablement à cette église de Pergame, qui est quelqu'un qui tenait cette doctrine-là. Puis, il y en a des gens à l'église qui ont tombé là-dedans. Mais il dit aussi, tu as aussi maintenant des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes, la mauvaise doctrine des Nicolaïtes, qui s'est répétée ici, probablement au même rapport, ok? Idolâtre, la débauche, probablement. Mais je ne peux pas me prononcer parce qu'on ne connaît pas qui sont vraiment les Nicolaïtes. Même dans l'histoire, il y en a qui se prononcent, là. Peut-être qu'ils ont des compromis avec leur foi, ils font tomber au peuple de Dieu. Mais c'est sûrement quelque chose de mauvais. C'est une mauvaise doctrine qui influence l'Église. Il y en a qui sont à l'intérieur de l'Église. Et qu'est-ce qui dit à l'Église? J'ai contre toi, certains greffes, que tu as des gens qui maintiennent la doctrine. C'est quoi le problème de maintenir des gens avec une mauvaise doctrine? Qu'est-ce que l'Église doit faire, en fait? À quoi elle est exhortée, l'Église? Ça a rapport avec quoi? Oui, maintenir la saine doctrine. Et des fois, ça passe par quoi, là, des fois? La repentance, c'est vrai. Mais avec ces gens-là, oui, les mettre dehors. Hey, Daniel, t'es vraiment... Mais c'est vrai, non? Les mettre dehors, ça a rapport à quoi? Malheureusement, la discipline sont parmi eux, OK? Puis l'Église doit discipliner ces gens-là. Que ce soit pour qu'ils se répandent, ils reviennent à la bonne voie, ou que ce soit qui se perd aussi. Mais l'Église, comment on appelle ça là? L'Église est appelée à veiller. Les responsables sont appelés à veiller pour l'Église, pour ses mauvais enseignements. Est-ce que Pergame l'a fait? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait Pergame? Il permet ces choses-là. Et c'est ce que j'ai contre toi, dit. Des fois, on peut pouvoir... Et comme je dis à la blague, tantôt Daniel qui a mentionné ça, voire très drastique. Hein. Et dans cette église-là, j'y vais pas, ils appliquent trop de discipline. Ils sont trop disciplinés. Mais il faut le faire, malheureusement, pour combattre les mauvaises doctrines, les mauvaises pratiques même. Et c'est difficile, c'est vrai, mais c'est tellement, frères et sœurs, édifiant de voir que des gens se répandent, ils reviennent au Seigneur après avoir été passés par une discipline à l'église. Donc, ce qui est reproché à cette église-là, que tu maintiennes cette doctrine-là, appelle à la repentance. Jésus appelle donc l'église à se repentir, c'est-à-dire à changer de manière de penser, même de vivre, et ne plus tolérer ses erreurs au sein de l'église-là. Répands-toi donc. Et sinon, je viendrai bientôt à toi et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Qui veut combattre contre Jésus là? Celui qui part avec moi, il est contre moi. Qu'est-ce qu'il dit Hébreu là? C'est dur tomber dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu. Oui, donc sinon Jésus va utiliser. Comment on peut dire bientôt je combattrai l'épée avec l'épée de ma bouche? Comment on peut comprendre ça? Qu'est-ce qu'il va faire Jésus à son église? Je vais vous combattre avec l'épée de ma bouche. Là. Des exemples, comment il pourrait... Oui, c'est ça, puis il y a eu des morts, là. Et... Oui, c'est ce que j'ai mentionné, les filles médianites. Ça veut dire que de cette façon, ici à l'église, il pourrait arriver des gens qui vont tomber sur l'épée. Oui, c'est ça, mais il y a eu une conséquence. En quelque sorte, il avait purifié son peuple à cause de ça. Mais quand il parle avec l'épée de ma bouche, c'est sa parole. Oui, sa parole, il pénètre, qu'est-ce qu'il dit Hébreu? Jusqu'au... Mais ça peut être aussi ses décrets, hein? Quand il dit, avec la parole, qu'il dit, il combattrait avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire avec sa parole, et c'est son décret. Des fois, on dit, oui, c'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait des choses aussi radicales de la part des dieux. Vous vous rappelez au début de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé avec... qui ça? Qui se rappelle de nom, le couple? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en quelque sorte, Dieu a décrété, hein. À Pierre, il dit, ben, tu vas dire à ces gens-là que quand ils vont arriver, ils vont dire que, quoi? Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Et là, qui est tombé en premier? Marie, et puis après, la femme est venue et est tombée aussi. Ça ne veut pas dire que Dieu va agir comme ça, mais ça peut être aussi. Mais avant ça, Dieu nous exhorte avec la parole, avec sa parole. OK? Mais ça peut être drastique. Des fois, même Paul, il dit, là, et à cause que des gens, ils prennent le repas du Seigneur d'une façon indigne, qu'est-ce qui arrive? Il y en a qui dort. Il y en a qui sont morts. Donc, l'avertissement est fort hein, pour l'église de Pergame. Est-ce que c'est un avertissement pour nous aussi? Bien sûr, ça c'est pour nous aussi, un avertissement. Et pas seulement, alors qu'il a dit, vous allez dire, ah, ben, que les anciens, là, faites attention, là, parce que ça peut arriver. Non, c'est pour nous tous, là. On doit faire attention les uns les autres. On doit vraiment ne pas permettre des mauvais enseignements. Je sais, des fois dans la jeunesse, là, il y a des... Tu peux être témoin, Josh, là. Il y a des jeunes, là, qui arrivent avec de nouvelles pensées. Tu te rappelles, là, des nouveaux enseignements. Puis des fois, j'ai vu quelques jeunes, Josh aussi, ils jasaient avec lui pendant beaucoup de temps, là, un peu pour même. Je me rappelle qu'il y a un jeune qui est venu avec des nouveautés. Il a appris, il a dû partir, parce qu'on n'acceptait pas ça. Puis lui, il n'était pas content, mais on lui a montré gentiment la porte, OK? On n'est pas enseigné des choses qui vont pas contre, avec la saine doctrine. Donc, c'est l'avertissement à l'Église. Il dit, et appelle à la repentance dans le verset 16, là. Jésus utilise l'expression « combattre » avec l'épée de la bouche, on l'a dit. Cette épée représente sa parole puissante, qui juge la vérité et le mensonge aussi. Et ce combat rappelle comment Dieu s'oppose aux faux prophètes autrefois, comme Balaam. On l'a dit aussi. Donc, dans Nombre 31, 8, ce qu'on a mentionné peut-être, il dit, « Ils tuèrent en outre de ce massacre, okay, le roi des Madians et Balaam aussi, qui fait tomber au peuple d'Israël. » Donc, l'idée du châtiment est sévère. Mais il y a une promesse aux vainqueurs, dans le verset 17. Mais il y a une promesse en trois parties. Hein. Je ne donnerai quoi? La manne cachée. Qu'est-ce que ça veut dire, la manne? Qu'est-ce qu'il va donner vraiment la manne cachée? C'était quoi la manne? J'aurais voulu goûter la manne. Ça a l'air que c'est comme... c'était quoi déjà? Comme du miel. Moi, j'aime le sucrerie. Hein. Moi, ça, c'est mon... Puis j'aurais voulu... C'est quoi? En plus, là, Moïse, il dit qu'il a gardé, il a gardé la manne. Hein? Est-ce qu'il fait référence à ça? Ça veut dire que la manne dure encore jusqu'à aujourd'hui. Il dit, je donnerai la manne cachée. Mais c'est vrai que ça peut faire une référence. Mais je ne crois pas. Mais une chose est sûre. Dieu voulant, quand je vais arriver au ciel, là, quand ça va être tout fini, j'aimerais demander à Dieu, est-ce que je peux goûter la manne? Juste pour... Et moi, je suis très difficile pour la nourriture. Hein. Mais ça a l'air bon, en tout cas, la manne cachée. Mais là, il dit, c'est vraiment un contraste avec le monde. Hein. Contrairement aux viandes sacrifiées, vous voyez encore les images, comment Jean écrit dans cet épître-là, il dit les viandes offertes en sacrifice. Contrairement à cela, Christ offre une nourriture céleste et éternelle. La source de vie. Cette image rappelle la manne du désert, c'est vrai, dans Exode 16, mais trouve son accomplissement en Jésus qui est le véritable pain de vie. C'est lui, le pain de vie descendu du ciel. C'est pour ça que je crois que c'est quand même aussi symbolique. Je donnerai à manger de la manne cachée. Jésus est notre Pâque, dit Paul aussi. Donc il dit, je donnerai de la manne cachée. Une provision céleste. Elle est dite cachée car elle est préservée par Dieu jusqu'à son plein épanouissement lors du renouvellement de toutes choses. Là. C'est vraiment, je crois que ça fait rapport avec la vie éternelle. Jean 6, 35, je leur dis, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il dit aussi? Je donnerai un petit caillou blanc. C'est quoi ce caillou blanc? Qui sait c'est qui ce caillou blanc là, s'il vous plaît? Vous avez fait des études dans l'Apocalypse, puis dans toute la Bible. Vous pouvez me dire, c'est quoi ce caillou blanc, là? Il y a plusieurs interprétations hein, de ce caillou blanc. Pourquoi il utilise cette... qu'est-ce qu'il représente? C'est un privilège hein, accordé par Jésus. Au qui? Au vainqueur. OK, c'est un privilège. J'en ai une liste de ce qui signifie ce petit caillou blanc. Il y en a qui disent que quelqu'un gagnait un procès, il donnait un caillou blanc, ok? Peut-être il fait, dans le temps, hein? Peut-être fait référence à ça, je ne sais pas, ok? Mais il y en a qui parlent aussi des pierres ou pectorales qu'avait le souverain sacrificateur, vous vous rappelez, là? Des pierres qu'il y avait, et puis les noms des tribus étaient écrits là-dessus. Il faut référence à quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Un porte-bonheur, peut-être on a le petit caillou. Un jeton d'entrée. Je ne sais pas. C'est un symbolisme. Mais ce caillou confirme que le croyant n'appartient plus au royaume des ténèbres, mais à celui des dieux. Nous appartenons maintenant. C'est comme que nous appartenons à Jésus maintenant. Ce caillou blanc, ça fait référence probablement à ça. Il symbolise la reconnaissance officielle de Christ envers ceux qui sont restés fidèles. Au vainqueur, je donnerai ce caillou blanc. Rappelons-nous que Jésus est lui-même la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. On pourrait dire la pierre précieuse, ce caillou-là. Il est la pierre précieuse. Je pense que c'est Pierre ou Paul qui dit que nous, les chrétiens, on est comme des quoi? Des pierres vivantes, ok, qui construit son église. De faire référence à ça, on pourrait en tirer plusieurs, mais ce qu'il faut se concentrer, c'est surtout la récompense aux vainqueurs, pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Et il dit un nom nouveau. Il y a même des chants qui ont été inspirés de ce un nom nouveau dans la gloire. En espagnol, il y a un chant qui parle de ce nouveau nom dans la gloire. Recevoir un nom nouveau évoque une transformation spirituelle. À l'image de qui? Vous rappelez? Abraham. Et j'ai dit Abraham parce qu'il s'appelait Abraham avant. Il s'appelle, mais après, comment il s'appelait? Abraham. Qui a changé son nom? Oui, c'est Dieu lui-même qui a changé. Jacob, comment il a changé son nom? Israël. Simon, vous vous rappelez? Simon, tu seras plus Simon. Tu seras Simon? Pierre, il l'appelle Pierre. Mais on pourrait chercher d'autres exemples comme Paul. Il a été avant Saul, mais ce n'est pas Dieu lui-même qui l'a nommé comme Saul. Mais on voit quand même des exemples. Nous allons avoir un nouveau nom. Je ne sais pas si c'est encore là, littéral, je ne crois pas. Je crois que peut-être je vais me appeler Ronald, mais pas Ronald Anderman. Ronald chrétien, mettons. Tout le monde va être chrétien de la même famille. Ce nom représente le caractère unique que Dieu a conçu pour chacun de ses enfants. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants et de Dieu. Mais il y a quelque chose quand même qui fait référence. Ésaïe, qui peut lire Ésaïe 62, 2? Et Ésaïe est en train de parler vraiment dans les derniers chapitres, un peu comme la conclusion. Hein. Il parle des nouveaux cieux, nouvelles terres. Ça nous donne un peu une idée de ça, de que l'Apocalypse parle à la fin des temps. 62, 2, puis l'autre 65, 15. Qui pourrait me lire ça, s'il vous plaît? Rapidement. Nom nouveau. Ça peut être référence aussi au nom nouveau, au peuple de Dieu, au nouveau peuple de Dieu. Et le 65-15, il donnera à ses serviteurs. Il est en train de parler aux ennemis de Dieu. Il dit, il donnera à ses serviteurs un autre nom. Quel est votre nom? Votre nouveau nom?
Sarai.
Ouais. En tous les cas. On est né de nouveau dans le Seigneur. Le Seigneur nous a transformés. Le fait que seul celui qui reçoit et le connaît souligne l'intimité. Hein. C'est Dieu seul qui... C'est lui qui le reçoit, il connaît ce nom-là. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. OK? C'est personnel, là, je crois, quand il dit... Un nom qui est marqué, là, votre nom, un nouveau nom qu'il va vous donner. L'intimité profonde et unique avec notre Sauveur fidèle. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Donc, voici 4 enseignements qu'on peut tirer de cette lettre à l'Église de Pergame. La souveraineté de Dieu, celui qui tient l'épée, ok. L'exigence à la fidélité aussi, garder la bonne doctrine, la saine doctrine. Le danger de la corruption intérieure, ça a rapport avec ces mauvaises doctrines de Balaam. Il est promesse aux vainqueurs. Amen. Donc, je voulais continuer, mais là, je dois couper là. Mais vous savez, sur le site web, nous mettons tous les PowerPoint, ok, de l'enseignement. Donc, je vais mettre le restant. Ça a rapport avec ces 4 principes, ces 4 aspects qu'on peut tirer de la lettre à l'Église de Pergame. Qu'est-ce qu'on va étudier la semaine prochaine? La lettre à l'Église de Thyatire. Donc, j'ai hâte d'entendre ce message à cette Église-là. Amen. Est-ce que quelqu'un qui... Il y a quelque chose à rajouter, peut-être 2 minutes? Ah oui? OK, comme un symbolisme. Quand il accepte le Seigneur, il donne un nom de frère. Frère Ronald, frère, hein, sœur. Hein? Le nouveau nom. Non, ce n'est pas le nouveau nom. Mais il y a des églises qui tiennent ça. Il y a des églises, quand il y a quelqu'un qui accepte le Seigneur ou qui se fait baptiser, il donne un certificat de baptême. C'est symbolique. Et nous avons ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une place, si elle est réservée pour nous. Et nous allons être, du volant, des vainqueurs, parce que à cause de notre foi, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Frères et sœurs, on ne sait pas ce qui nous attend, ok? Maintenant, là, ok? Est-ce que de votre vivant, vous allez être persécutés durement à cause de votre foi? Je ne le sais pas. Non! Dis non! Il ne faut pas dire non, mon frère, parce que ça peut changer d'une minute à l'autre. Hein? Le monde peut changer. Oui, il y a des épreuves que Dieu envoie tous les jours.